Merci, prochain rendez-vous à 15h.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans cet univers d'images. Vous le connaissez bien, cet univers, dans la pleine chaleur de l'été. Elles sont dans nos téléphones, nos tablettes, nos écrans de toutes sortes. Et puis, l'image est ailleurs aussi, sur les murs des institutions, dans les festivals, à Arles en ce moment ou à Lectoure. La photo est dans les livres, dans la presse de moins en moins, même si quelques titres soignent évidemment encore cet alliage texte et image. Moi, je parle de cette photo-là sur France Inter. Alors, s'il faut que la photo serve à quelque chose, à nous instruire, à nous informer, à nous élever, à nous émouvoir, à nous questionner, autant qu'elle nous emporte à l'autre bout du monde en ce moment, cet été, pour nous montrer ce que certains peuples vivent. Le photographe Pierre de Vallombreuse s'est engagé depuis longtemps à témoigner auprès des minorités ethniques menacées. Cette histoire a commencé comme cela.
Je suis allé au cœur de Bornéo et finalement, mon deuxième, troisième jour, quand je me suis réveillé au bord d'un fleuve magnifique à 5h du matin avec la brume, les oiseaux, les odeurs et puis sentir qu'il y avait des centaines de kilomètres encore qu'on allait faire dans la jungle, cette espèce de flash, espèce de lumière m'est apparue. Je l'ai ressenti physiquement, à la fois dans le cœur, la tête et le corps. Et cette espèce de grande de rayon de lumière m'a dit, mais ma vie, ça sera ça. Au lieu d'imaginer les histoires, je vais les vivre. Et la photo me permet de les raconter.
Et la photo nous permet à nous, non seulement de vivre ces paysages et ces vies par procuration, mais aussi de passer de l'autre côté du miroir, de comprendre comment la férocité de l'époque désintègre les êtres humains qui composent ces peuples en voulant les intégrer à nos modes de vie.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Pierre de Vallombreuse, bonjour.
Bonjour.
Vous allez, non pas tout nous dire, parce que je sais presque tout de vous. Vous êtes né en 62, à Bayonne, avec un personnage, grand ami de vos parents, Joseph Kessel. Pouvez-vous me dire aujourd'hui, en 2018, quelle influence cet homme-là, ce célèbre homme, a-t-il eu dans votre vie?
Le goût de l'aventure, du témoignage et de pas avoir de limites dans sa vie. Et d'une extrême générosité et d'un appétit de vie féroce.
C'est lui qui vous a donné ce goût de l'aventure?
C'est un mélange. Déjà, faut savoir que moi, je suis né donc dans le Pays Basque et que la villa de mon père s'appelait Baguera. C'était pas prédestiné, je ne savais pas. Donc lui a participé, mais c'était le livre de la jungle que j'ai lu et relu peut-être des centaines de fois. J'avais un disque que j'écoutais peut-être des milliers de fois. Et moi, je me projetais, je voulais devenir Mowgli. Et grâce à cette vallée des Philippines que je fréquente, j'ai pu devenir Mowgli pendant un moment.
Alors si on reprend votre parcours, vous êtes allé aux Arts Déco à Paris, vous alliez être dessinateur de presse, et puis un voyage a bouleversé ce parcours préétabli, racontez-nous.
Alors justement, je voulais être dessinateur de bande dessinée et de faire aussi du dessin politique dans les journaux. Voilà, j'ai toujours une vision politique des choses, j'avais envie de témoigner, d'inventer des histoires. Et j'ai été nourri par la bande dessinée, Corto Maltese a été aussi une de mes influences bien sûr. Et donc j'étais aux Arts Déco en section graphisme, enfin après non, c'est le tronc commun, je me destinais à la section graphisme. Puis j'étais mal dans ma peau, j'étais en retrait, souvent très silencieux, très quasiment invisible. Je traînais dans les trucs, il y avait peut-être des toiles d'araignée, on me voyait pas. Donc voilà, je savais pas comment trop exister, trop aimer ma place. Et puis je me suis dit, viens, je veux faire un grand voyage. Et je faisais un petit peu de photos, c'était des UV optionnels. Et là, donc, je voulais une grande forêt, partir avec des gens qui vivent de la façon la plus humble sur Terre, c'est les chasseurs-cueilleurs. Parce que chasseur-cueilleur ne fait qu'une chose, il prélève un peu, il disparaît, il ne laisse pas de traces. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de guerre. Enfin, il n'y a pas. Voilà, je trouvais que c'était une forme humble, très poétique, très romantique de vie et de grande liberté. Donc je suis allé au cœur de Bornéo et finalement, mon deuxième, troisième jour, quand je me suis réveillé au bord d'un fleuve magnifique à 5h du matin avec la brume, les oiseaux, les odeurs et puis sentir qu'il y avait des centaines de kilomètres encore qu'on allait faire dans la jungle, cette espèce de flash, espèce de lumière m'est apparue. Je l'ai ressenti physiquement, à la fois dans le cœur, la tête et le corps. Et cette espèce de grande de rayon de lumière m'a dit, mais ma vie, ça sera ça. Au lieu d'imaginer les histoires, je vais les vivre. Et la photo me permet de les raconter. Et d'être toujours un raconteur d'histoires.
La photo était présente dans votre vie familiale. Vous aviez des photographies exposées sur les murs chez vous. Enfin, c'était
non,
quelque
c'était
chose
la peinture.
Qui vous attirait. Oui,
c'est j'imagine. La peinture. C'était la peinture. Et dans ma famille, la peinture. Et pas la photographie, malheureusement, j'aurais bien aimé. Je voulais avoir un appareil, mais mon père ne voulait pas m'en offrir petit. Je n'ai pas trouvé ça inutile, et ben, je me suis bien rattrapé.
Mmh. Et qui alors vous incite à poursuivre dans cette voie?
moi.
Dans la photographie.
C'est moi, parce que j'avais trouvé ma voie. C'était quand je me suis réveillé à 5 heures du matin que j'ai eu ce flash comme ça. C'était clair, c'était ma vie, c'était ma destinée. Puis ça fait 30 ans, j'ai pas arrêté.
Mais à 5 heures du matin, vous aviez un appareil photo près
oui,
de vous?
Oui, j'avais un Nikkormat. Et parce qu'aux Arts Déco, on faisait les deux premières années, on faisait plein de matières, différentes disciplines, vidéo, gravure, sculpture, peinture, tout. Et je faisais de la photo.
D'accord.
Donc j'avais déjà mon petit appareil de photo.
Très bien, alors vous revenez de ce voyage, vous avez quelques images, vous les montrez déjà à la presse,
et
vous essayez de les vendre.
Bah bien sûr, pour pouvoir financer mon retour. Donc je vais voir Terre Sauvage, et il me dit, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc je travaille dans un hôpital à Institut Curie, donc pendant 2 mois, pour me trouver l'argent pour repartir l'année qui suit. Je fais un deuxième voyage, et puis Terre Sauvage me les achète. Photos très moyennes, mais à l'époque Terre Sauvage se lançait, n'avait pas des gros budget par rapport au major qui était Géo, qui trustait tout, VSD, qui était des gros titres et qui avait beaucoup d'argent. Et puis le reportage était honnête. Et puis voilà, donc mon deuxième voyage, j'ai déjà publié, toujours étudiant aux Arts Déco, j'ai déjà publié mon premier sujet.
D'accord. Et qu'est-ce qu'un reportage honnête ?
Honnête,
comme vous venez de le dire.
Un reportage honnête, c'est raconter des vraies histoires, c'est déjà avoir pris du temps. Pour moi, un reportage honnête, c'est respecter aussi la relation avec les gens. Donc j'ai vraiment passé du temps. J'avais commencé à apprendre déjà la langue, le malais. C'était essayer de témoigner une chronique un peu ethnographique, pure et dure. C'était pas de la grande photo, mais voilà, c'était des choses. C'était pas bidonné, pas de mise en scène. Et aussi une vraie relation avec les gens.
Combien y a-t-il de peuples autochtones dans le monde ?
Il y a 5000 peuples autochtones.
Vous en avez photographié combien ?
Alors plus ou moins bien, parfois survolé, parfois extrêmement survolé, parfois vraiment des travaux de fond, 43 je crois.
Qu'est-ce que vous appelez survolé en photographie ?
Il y a des fois, de temps en temps, j'ai eu des commandes qui étaient où je passe 15 jours à travailler sur les Maasai en Tanzanie, pour moi c'est survolé. C'est, même si le sujet était intéressant, c'est survolé. En allant au Moluques pendant 6 mois, qui était mon deuxième grand voyage, essayer de trouver des anciennes tribus de chasseurs de têtes.
Où cela ?
Au Moluques, en Indonésie, presque de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc là, je voulais rencontrer des peuples anciennement coupeurs de têtes. Donc j'ai de temps en temps, sur le chemin, j'ai passé 8 jours avec un peuple, 4 jours avec un autre. Donc j'ai collecté des images toujours, ça reste des petites choses.
Et qu'est-ce qu'une bonne chose, une bonne photographie pour vous, Pierre de Vallombreuse ?
Ah, petite, grande ou moyenne, ça peut être très bon. De temps en temps, il peut y avoir des choses qui surgissent comme ça. Et on a, c'est comme une très bonne image qui, tout d'un coup, elle est en une seconde partie. Et on a une très grande image. C'est d'abord le souvenir que j'en garde, de la qualité de la relation que j'ai pu avoir, l'intensité des choses que j'ai pu vivre. Et puis, après, l'utilité qu'on peut en faire. Parce que pourquoi est-ce que j'ai voulu vivre cette vie ? C'est vivre les expériences, à la fois physiquement, intellectuellement, amoureusement, et les transmettre. Donc il y a la transmission. Est-ce que c'est transmissible après ? Donc c'est ces deux choses.
Pensez-vous que la transmission est meilleure quand elle est avec la presse, avec une exposition, avec un livre ? Quel est pour vous le meilleur vecteur pour la photographie, pour qu'elle aille vers le public ?
Tous les moyens sont bons pour témoigner, parce que c'est aussi cette vie que je mène, c'est un engagement au service de la cause des peuples autochtones. Donc tous les moyens sont bons, aussi bien une émission de radio, on verra pas d'image, qu'une exposition, que le livre et la presse. Alors maintenant je suis dans une phase où je fais beaucoup plus de livres, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, la presse étant un petit peu sinistrée, malgré de très beaux titres qui surgissent, comme 6 mois, 21, il y a une alternative, il y a des choses qui sont hebdo, on voit des titres de qualité, la presse a un peu décliné. Le livre aussi, c'est des choses qui vont rester, et qui j'espère seront transmis de génération en génération, quelques-uns.
Alors, on est à la radio, c'est Regardez Voir. Contrairement à ce que vous venez de dire, on peut voir vos photographies en ce moment sur la page franceinter.fr avec Regardez Voir. Et vos photos ont circulé dans les couloirs de France Inter. Sans savoir quoi que ce soit sur cette image, Nicolas Stoufflet, qui produit le jeu des 1000 euros, nous dit ce qu'il voit.
C'est une photo en noir et blanc. C'est important de le préciser d'entrée. Une photo qui me semble avoir été prise dans un pays d'Asie. Des enfants sur une embarcation toute simple. Deux enfants dans la barque et une enfant qui est tirée comme ça par une corde, par un bout peut-être, dit-on, dans le langage de la navigation. Ils semblent être joyeux, ils sont dénudés, ils semblent pêcher peut-être, s'amuser en tous les cas. Il y a quelque chose de très simple, de très enfantin dans ce petit groupe évidemment et sur cette photo. Et puis il y a aussi le, très certainement un élément qui est marquant, c'est la pauvreté. On sent bien que ce sont des enfants qui sont non pas livrés à eux-mêmes, hein, je n'en connais pas l'histoire bien sûr, mais il y a cette simplicité de vie et peut-être cette pauvreté qui transparaissent. Ça fait aussi réfléchir, ça me fait penser, ce qui n'est visiblement pas le cas, je ne le crois pas sur cette photo, ça me fait penser évidemment à toutes ces personnes qui, elles, traversent la Méditerranée, qui n'ont pas du tout le cœur à jouer sur des embarcations de fortune. Il y a quelque chose de joyeux chez ces enfants, mais il y a dans le regard de la petite fille qui se laisse traîner comme ça au bout de cette corde, de ce bout, il y a aussi un regard qui semble être porté vers un horizon assez lointain. Et je ne sais pas du tout où cette photo a été prise, mais elle est riche en interrogations.
Merci Nicolas Stoufflet. Pierre de Vallombreuse, vous allez pouvoir répondre aux interrogations de Nicolas. Il en pose des questions avec votre image.
Et tout à fait. Et puis il me dit quelque chose qui me touche beaucoup, parce que, enfin, plusieurs choses. Enfin, c'est que déjà, moi, pour moi, une photographie réussie, c'est une photo qui pose une interrogation. Je n'affirme rien. Je n'ai rien à affirmer et je sais pas beaucoup grand chose. Par contre, je pose des questions. Donc déjà, je trouve que là, du coup, j'ai réussi un petit peu ma mission.
Bien sûr.
Après, quand il dit pauvreté, simplicité, c'est aussi quelque chose de très. C'est un vrai sujet aussi de discussion. Effectivement, ce sont des peuples. On a affaire aux derniers nomades apatrides, Bajau, au nord de Bornéo, qui vivent entre les Philippines, le nord de Bornéo, la Malaisie, l'Indonésie. 90%, quelques dizaines de millions de Bajau sont sédentarisés. Et il reste une petite poignée de gens très pauvres, mais très simples. Et la simpleté n'est pas forcément de la pauvreté. On peut vivre simplement sans être pauvre. La pauvreté n'est pas aussi la misère. La misère, c'est quand on perd son identité, c'est quand on est asservi, c'est quand on a plus de ressources, on a perdu son autonomie. Là, on a affaire à des gens qui sont en train de basculer vers la misère, parce que les peuples, les gouvernements locaux ne les aident pas énormément. Il y a aussi les conflits entre Abu Sayyaf, qui est un groupe extrémiste du sud des Philippines, islamiste qui a fait allégeance à Daesh, les Soulous qui font partie aussi, le peuple Soulou de l'archipel de Soulou aux Philippines, aussi avec lesquels les Bajau ne sont pas toujours très copains. Donc ces quelques milliers de gens qui n'ont pas de titre de citoyenneté sont un peu des parias de la mer. Et avec le réchauffement climatique, la pêche intensive, les zones de trafic, on a un basculement vers des gens. Et j'ai vu depuis 6 ans, voilà un peuple que je suis depuis pas mal d'années, arriver chez eux dans les petits îlots, pas loin de la côte, mais ce qui était réservé aux petits slums, les petits bidonvilles de la côte où beaucoup sont venus s'échouer, la drogue, toxicomanie, surtout ils sniffent de la colle, il y a du chabou, enfin il y a différentes choses. C'est arrivé aussi dans ces petites cités lacustres, ou parce qu'ils sentent que leur vie, ils vivent dans la peur d'être comme en France avec ce qui se passe en ce moment avec la migration. Il fait un très bon rapport.
Et il en
avec
parle, Nicolas.
Voilà,
bien
avec
sûr.
Le scandale de la façon dont on traite à Calais, c'est vraiment ignoble ce qui est en train de se passer là-bas. Ils subissent aussi la même chose. C'est assez éternel. Il y a peu de générosité dans le monde, de façon que ce soit en France en ce moment, pays riche, ou que ce soit en Malaisie, à Bornéo, on maltraite les gens comme ça.
Donc Pierre de Vallombreuse, les Bajau sont en train de disparaître. Tout simplement.
Ce mode de vie, parce qu'il y a beaucoup de Bajau ont été sédentarisés, s'intègrent, deviennent des pêcheurs, vont beaucoup mieux que ces groupes de nomades apatrides qui sont encore de véritables nomades et qui eux vivent de pêche, de petits trafics, de plein de choses et qui eux sont pris en sandwich dans l'étau des États. Et donc oui, ce que disait Nicolas Stoufflet, ce que disait par rapport, ça lui faisait penser un petit peu au drame que vivent tous ces migrants qui se noient et qui vivent dans des... Ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, on est dans une période où notre gouvernement, en ce moment, est indigne. Walking fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold.
Regardez voir cet après-midi, mon invité s'appelle Pierre de Vallombreuse qui depuis 1986 témoigne de la vie des peuples autochtones sur les 5 continents. Vous devez avoir énormément de photographies, Pierre de Vallombreuse.
Alors oui, j'ai constitué un fonds de maintenant, sur mon site il est marqué 140 000, mais je pense qu'on est peut-être à 160, 180, peu importe, c'est beaucoup de photos, dont la plus grande partie, je dirais 99,5%, ont surtout une valeur anthropologique, ethnographique, historique. Après, la dimension purement photographique, c'est quelques dizaines de bonnes photos.
Est-ce que vous dites que vous êtes un photographe anthropologue ?
Non, on me dit toujours que je suis anthropologue. Je ne suis pas, à la limite, je pourrais être un petit peu ethnographe. Anthropologie, c'est commencer à tirer déjà des conclusions, des schémas et des analytiques. Moi, je suis peut-être, on peut dire un peu ethnophotographe. Je fais de la collecte. Bien sûr qu'à force de travailler sur des thématiques et d'essayer de regrouper des choses, c'est une sorte d'un peu anthropologie visuelle. En gros, j'ai une formation artistique. Après, j'ai sombré dans le photojournalisme. J'ai spécialisé dans les peuples autochtones un peu d'ethnographie et surtout un témoigné, donc c'est un ensemble de ces quatre choses.
Pourquoi dites-vous sombrer dans le photojournalisme ?
Non, c'était juste pour rire comme ça. Non, j'ai bien aimé, ça me plaît bien. J'ai fait des sujets très intéressants, aussi bien le retour de Bernard Tapie à l'OM que... mais c'est passionnant de rentrer dans des...
Là, on
des,
peut dire sombrer, oui.
Donc voilà, mais j'ai fait des trucs très bien, la crise économique en Argentine, la guerre civile en Colombie...
Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des peuples autochtones où il y avait... Je pense à cela quand vous parlez du photojournalisme, une certaine violence. Est-ce qu'il y a eu des moments rudes ?
Ah, il y a des moments extrêmement douloureux. Parce que le premier livre que j'ai fait, qui s'appelle Peuple, avec une préface, où j'étais très honoré, c'est la première fois qu'Edgar Morin faisait une préface pour un livre de photographie. Et c'était effectivement le fruit d'une quinzaine d'années de travail à témoigner sur la destruction et toutes les étapes. Symboliser un petit peu toutes les étapes, comment vivent les peuples autochtones aujourd'hui, aussi bien peu contactés, jusqu'à tout d'un coup l'arrivée de missionnaires, ou l'arrivée de médias, ou de tourisme, et puis les peuples qui changent, donc l'intégration désintégrante, dont parlait Edgar Morin, et jusqu'à des rébellions, l'insurrection zapatiste, là au Chiapas avec les Mayas, aussi bien la guerre civile inconnue, on ne sait pas qu'il y a une armée de libération papou en Papouasie-Nouvelle-Guinée et Rian Jaya en Indonésie. L'Indonésie a quand même envahi dans les années 60, pendant la guerre froide, un pays qu'on lui a donné en cadeau, et il fait un génocide, il massacre des gens, il détruit les terres, et il a importé des centaines de milliers de javanais. Donc on est dans une colonisation contemporaine avec torture, exécution sommaire, qui ça dure tout le temps.
Comment partez-vous sur un projet ? Qui vous parle de ce peuple que vous allez aller photographier ? Lisez-vous ? Avez-vous des références ? Ou partez-vous à l'aventure ? Je ne pense pas que vous partez à l'aventure.
tout peut arriver. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut me dire un nom, quelque chose, et puis ça peut être un déclencheur. Après, je lis beaucoup. Parfois, ce sont des thématiques différentes qui vont m'amener, et j'essaie de le voir sous l'angle de des peuples autochtones. Par exemple, avec mon projet Homme Racine, qui a donné un livre aux éditions de la Martinière, avec une préface de Pierre Rabhi, c'était comment les peuples autochtones occupent un territoire, une terre, et puis l'appauvrissement de la diversité culturelle, le lier aussi avec l'appauvrissement de la biodiversité. Donc là, c'était la biodiversité en danger, mais c'est aussi le connecter avec l'appauvrissement culturel. Parce que souvent, vous allez lire dans des journaux un article sur la disparition du thon rouge, et puis dans un autre, la disparition de tant de langues, comme si c'était des choses séparées. Non, c'est l'humain, les arbres, les plantes, les animaux, on fait partie du domaine du vivant, et c'est le vivant en ce moment qui est en danger.
C'est Edgar Morin qui parle dans son texte, dans le livre Peuple, de la reliance, en parlant de vous. C'est-à-dire que vous nous reliez, nous, ici, à des hommes qui habitent à l'autre bout du monde et qui sont totalement différents de nous et qu'il faut savoir connaître et respecter.
Tout à fait. Ça, c'est un combat que je mène. C'est justement sur l'altérité, le respect de l'altérité, ne pas voir les gens différents comme des ennemis, mais essayer de les comprendre, parce qu'on est tous, au fin de compte, moi, je m'aperçois que sur 30 ans, j'ai pas rencontré des étrangers, j'ai vu des gens avec des différences, mais que le mot étranger n'existe pas. On est beaucoup plus proche. Fondamentalement, les gens ont les mêmes aspirations, avoir une vie tranquille, pouvoir manger, envoyer ses enfants à l'école ou travailler. Après, on a des différences et moi, j'adore ça. De toute façon, c'est Claude Lévi-Strauss qui disait que chaque peuple, qui est un de mes maîtres, le Triste Tropique était un des livres qui m'a vraiment une révélation.
Influencé, nourri.
Oui, complètement. Et il disait que chaque peuple a inventé sur Terre une réponse à la vie et qu'on ne peut dire que l'une soit supérieure à l'autre.
Pierre de Vallombreuse, quand vous arrivez dans une communauté, êtes-vous toujours très très bien accueilli? Ou ça peut se passer mal aussi?
J'ai jamais été mal accueilli. Les processus ont pu être lents, longs, parfois immédiats. Il y a des fois des connexions et c'est là où on voit que même si on pourrait croire qu'on est très très étranger, sauvage, civilisé, il y a des fois des choses qui se passent comme ça et il y a un truc et puis l'être humain il est partout, on ressent des choses, il y a une sympathie qui se dégage. Je dis toujours ce que je viens faire. Je viens faire des photos pour témoigner, raconter des histoires. Puis après, les choses se sont, et des fois, ça a pris du temps, et puis d'autres fois, on m'avait dit, oui, quand tu vas aller par exemple, chez Aymara en Bolivie, les blancs des basses terres, légèrement racistes, par rapport aux Aymara au Quechua, parce qu'en plus, Evo Morales, ayant pris le pouvoir, premier président autochtone, avoir reconquis la dignité, avoir reconquis la souveraineté qu'on leur a volée il y a 600 ans. Donc, ils détestent, en gros, ils étaient extrêmement racistes. Mais ouais, tu verras, ils sont bourrés, ils vont fermer, ils vont te lancer des pierres, ils vont pas te parler. Et puis moi, je suis arrivé là-bas, je parle l'espagnol et je leur ai parlé très, très, très poliment. Et simplement, quand on leur parle comme des bêtes, en disant « Hey, toi, là-bas, tu fais quoi ?» et compagnie. Moi, j'ai dit « Cher monsieur, je suis heureux d'être là. » Donc le fait, et puis c'est extraordinaire, je n'ai eu que de très grandes rencontres et dans un endroit où je suis obligé de revenir. Il s'est passé un truc, c'était dans la cordillère de la Tres Cruces, qui était très, très haut, il n'y avait pas d'oxygène, c'était dur et très éprouvant, dans une communauté de mineurs qui trimaient jour et nuit pour gagner leur pitance. Ils avaient racheté les mines, c'était une coopérative. Et puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a une connexion extraordinaire, on a parlé. Et ces gens-là, qui étaient des gens qu'on disait imperméables, durs, nous ont intégrés, mais complètement à leur quotidien. Un type qui sortait de sa mine me donnait sa pauvre petite écuelle où il avait son repas, il me disait « mange », alors qu'on ne s'était même pas parlé. Il y a quelque chose qui a circulé. Et il y avait un jour, il y avait un rituel qui se préparait. Et la personne qui m'aidait, qui était un petit peu mon intercesseur, un mineur avec qui on avait sympathisé, me dit « écoute, il y a un rituel pour la Pachamama, c'est pour les vraiment... » Tu dois avoir El Tio, qui est le dieu des mineurs, et tu es invité. Donc je viens en rituel, j'apporte des feuilles de coca, de l'alcool, des cigarettes, les cadeaux comme ça. Et il y avait la chamane qui était extraordinaire et qui a dit, je lui ai dit, mais écoutez, pour faire des photos, je vous donne un peu d'argent. Et elle m'a dit, ah non, ça c'est exclu. Par contre, tu me promets de revenir. Et voilà. Chez des gens qu'on disait hermétiques. Et tout voilà. S'était passé.
Alors je vous propose.
Donc je reviendrai.
Je vous propose de regarder encore une de vos images. Et là, c'est au tour de Laurence Garcia de regarder une de vos photos, Pierre de Vallombreuse. Elle ne sait pas votre nom, de son côté, elle n'a aucune information. Elle nous la décrit tout simplement avec des mots.
On est dans un bistrot vide avec des chaises en plastique et je suis ultra saisie par ce personnage qui est face à moi. A priori, c'est un indien, un chef indien d'un certain âge. Il porte une énorme plume noire et blanc au-dessus de la tête. Il a un collier de plumes, il est torse nu, il doit avoir un certain âge. Il tient dans sa main un verre vide. Ce qui est frappant, c'est ses deux mains. D'abord, elles sont en premier plan, elles sont énormes, ça doit être un homme qui travaille la terre. Et sa main gauche, celle qui tient le verre, les phalanges sont coupées comme amputées, il n'y a plus de doigts. Donc ça lui fait de grosses 5 boursouflures. Et en même temps, à la limite, c'est violent, mais en fait, c'est son regard, moi, qui me saisit encore plus, ce regard-là, pénétrant, grave, qui nous regarde droit dans l'objectif, mais qui regarde-t-il finalement au-delà du photographe ? C'est un regard qui est à la fois pétri d'humanité, qui semble assez humide aussi, qui laisse transparaître une émotion de tristesse et en même temps de dignité. Voilà, je ne sais pas qui regarde, je ne sais pas. Voilà, c'est un regard de résistance qui illustre le passé, ce qu'il a pu vivre. On imagine une histoire qui a croisé la grande histoire. Moi, je suis encore plus saisie par la beauté de ce regard qui semble nous interroger, nous, là, ceux qui sommes en face. Voilà ce que me provoque ce superbe personnage et ce portrait.
Merci Laurence Garcia. Pierre de Vallombreuse, Laurence Garcia n'a évidemment pas de légende, rien. Et en fait, elle a tout vu dans cette photographie, non ? Vous ne croyez pas ?
Ah oui, bah écoutez, ça me fait très plaisir parce que je me dis qu'elle marche mes photos de temps en temps. Donc, effectivement, là, elle a affaire à un Dani. Le peuple Dani vit en Irianjaya. C'est un papou. C'est une ethnie, je dirais, du grand ensemble papou. Irianjaya est la partie occidentale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a été, comme je le disais précédemment, été envahie par Suharto en 1962. Donc là, j'étais avec un papou qui traînait, qui d'antan était très sympa, ce Dani, et qui traînait un petit peu avec des touristes pour essayer de gratter deux trois un peu d'argent, des clopes et voilà. Et puis on avait sympathisé. Et comme il parlait un peu indonésien, que je parlais à l'indonésien, donc on discutait. Il m'avait emmené voir des villages, des choses. Il était très sympa. Il voulait que j'achète un poste de radio. Donc il m'avait emmené à un village. Et on revenait à Wamena, la capitale du pays d'Ani. Et on était assoiffé, il faisait chaud. Et on va dans une petite échoppe, restaurant, tenue par des Indonésiens. Déjà, le papou y rentre, c'est mauvais. Parce que le papou, en plus, il est couvert de graisse de porc.
Oui.
Et les autres sont musulmans. Et donc, il y a une interrogation par rapport au porc. Donc là, on peut, qu'on n'aime pas, c'est un fait. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Mais surtout, les Indonésiens considèrent les papous en... C'est un mi-chemin entre le singe et l'humain.
Comme un sous-homme.
Voilà, c'est un sous-homme qu'on peut martyriser. Et j'ai assisté à des chroniques, des scènes quotidiennes de racisme effroyables. Il faut savoir que l'armée indonésienne a, par exemple, mis dans des glacières des papous, les a égorgés. Enfin voilà, c'est un peu le genre de choses qu'on fait avec eux. Et donc, ils rentrent, ils n'étaient pas contents, je le voyais. Mais comme moi, j'étais le blanc et le truc, le touriste, ils sont les Indonésiens que j'adore au demeurant, sont des gens extrêmement polis. Donc, on demande 2 thés glacés. Assoiffé comme ça, moi je prends le mien, paf, je me bois comme ça, puis je vois un petit rictus. Et lui, il boit son truc, mais il y avait servi un thé bouillant. Donc il s'est brûlé le gosier. C'est un petit geste de racisme. Et comme il a une main avec beaucoup de cornes, donc on sent pas la chaleur comme ça. Et comme on était assoiffé, on avait qu'une envie, c'était ça.
Mais quelle horreur.
Et donc voilà, les autres étaient comme ça. Donc bien sûr, je les ai engueulés. Et donc voilà, c'est un petit peu le niveau. Et bon, et là, alors effectivement, il a les phalanges amputées parce que les papous qu'on ne verra jamais pleurer quasiment, on pourrait dire qu'ils sont insensibles. Les Dani, c'est des gens en plus des guerriers qui étaient, c'est pas des tendres. Quand ils perdent un enfant, une femme, c'est lui-même, il se coupe le doigt en signe de deuil. Donc on a chacun sa façon, on est chacun le sauvage de l'autre. Mmh. Parce que quand je vois, il y a des ça où j'ai fait de temps en temps, j'ai montré ces images dans des lycées aux jeunes, j'essaie de leur montrer ce que c'est qu'être différent. Et ils rigolent, ils ricanent et je leur dis, bah vous savez, lui quand je lui ai dit qu'on mettait nos parents, nos grands-parents dans des maisons de retraite, des mouroirs, lui ça l'a fait pleurer, il avait une larme à l'œil. Donc on est tous le sauvage l'un de l'autre.
Et regardez voir, prend le large dans le grand ciel avec un nouveau titre d'Art Mango.
Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin. On joue diable à la ronde, ou bien rien, ou bien rien. Du bleu des satellites. Des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque. Il trouve un strapontin, un fauteuil, un hamac. pour regarder passer, passer les gens passer, entre sol et soleil. Il y a le ciel, il y a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand, pour cueillir en son sein le bonheur, la misère. Des avions et des saints Apollo, des prières, les paroles d'hirondelles et celles des aigles saines. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand, pour décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie. Moi je crois qu'il est changeant. Combien de sentiments entre sol et soleil. Y a le ciel, y a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y a le ciel, y a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand, pour noyer des rivières de prière, grand Seigneur. Dans la couleur de l'air, il y a les premières roses, des big bangs de l'amour, huit marches sur du velours. Croyez-moi, il est grand dans le ciel assez grand.
Depuis le début de notre rencontre, Pierre de Vallombreuse, vous avez dit plusieurs fois, je parle sept langues, celle-ci aussi. Vous parlez combien de langues au fond ?
Oh, je parle mal le français, l'anglais, l'espagnol, l'indonésien et le palawan.
Vous parlez vite le français.
Oui, le oui palawan, je parle trop vite. Oui.
Le palawan, vous le parlez ?
Oui, je le parle aussi.
C'est le sujet de l'exposition qui a eu, il n'y a pas très longtemps, au Musée de l'Homme à Paris. Alors, parmi tous ces peuples que vous avez photographiés, quel est celui, est-il possible de le dire, qui vous a semblé le plus harmonieux, le plus dans lequel vous aviez envie de rester définitivement ?
Alors définitivement jamais, parce que je sais que je dois repartir, que je dois témoigner, et que c'est l'un ne peut pas aller sans l'autre. Par contre, c'est cette vallée, et j'ai encore quelques voyages, je n'arrêterai jamais. Et donc là-bas, oui, j'ai passé 4 ans. C'est chez les Palawan, au sud des Philippines, parce que ce peuple-là, c'est certainement le peuple qui, pour moi, a la plus belle philosophie que j'ai jamais rencontrée. C'est un peuple simple, qu'on pourrait dire primitif, archaïque. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de décoration, donc il n'y a pas d'ostentation, il n'y a rien du tout, c'est des petites huttes, et voilà. Tout leur art, c'est leur philosophie, leur mode de vie, c'est la parole. Et ce sont de 12 anarchistes. Il n'y a pas de chef chez eux. Il y a quelques personnes qui ont des petits titres, qui sont des conseillers ou des juges, mais c'est limité vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coercition. On ne peut jamais, quand un juge condamne quelqu'un, une amende doit être bannie. Ce qui est important chez eux, c'est que la justice est une justice de l'énonciation. On doit dire les choses. La punition n'est pas intéressante. C'est après la personne de s'acquitter elle-même de sa punition. On ne paye pas ça à son amende, ben on n'aura plus beaucoup de confiance, on pourra s'isoler soi-même. On en est responsable de ses actions. Pour eux, ce qui est intéressant, c'est pas la punition, c'est que les choses aient été dites.
Donc, il n'y a pas de violence alors, physique.
C'est une des quelques rares sociétés dans le monde qui ont été identifiés, étudiés comme parmi les sociétés fondamentalement pacifiques. Ce qui ne veut pas dire que si on les attaque, ils vont pas se défendre, mais ils préfèrent fuir que se battre et disparaître. Moi, j'ai jamais vu de gens se frapper.
Et quelle est la place des femmes chez les Palawan ?
Tout à fait égalitaire. Alors chacun a des fonctions, des choses. C'est une société matrilocale. Justement, c'est le gendre qui souffre un peu, le mari de la femme, parce qu'il va vivre chez ses parents, des beaux-parents. Donc il est un petit peu taillable et corvéable par ses beaux-parents. C'est un petit peu le s'il a des beaux-parents qui sont un peu abusifs, il va souffrir.
D'accord. Donc, et comment vous revenez de ces voyages ? Vous rentrez à Paris, j'imagine, ou à Bayonne, non, je ne sais pas où vous vivez, mais vous rentrez en France en tout cas. Comment revenez-vous ? Dans quel état ?
Alors d'abord, je vis entre Paris et l'Oregon, donc je vais aussi dans la grande nature de l'Oregon. Comment je rentre ? Bah, parfois, si c'était témoigné, comme par exemple au Sud-Soudan sur un génocide, je rentre fracassé. Ou chez les Innus du nord du Canada, où on a le taux de suicide le plus élevé chez les enfants, alcoolisme, violence, terrible, on rentre fracassé pendant un moment et on a du mal à s'en remettre. Après, quand je rentre de la vallée, même si maintenant elle est dans une période de tension avec la guérilla, avec les plantations qui se développent, on va leur prendre leur terre et on sent qu'il y a un basculement énorme, ils ont plein d'inquiétudes. C'est mes potes, on va finir ensemble, donc on s'accompagne. Donc des fois on rentre très doux parce qu'on a rencontré une situation harmonieuse. C'est vrai, quand j'étais en Bolivie chez les Aymara et les Quechua, c'était fantastique dans un pays qui avait reconquis sa dignité avec tout d'un coup la fierté de ses traditions, la fierté de ses... Avant, dans le palais présidentiel, c'était des évêques, maintenant ce sont des chamans, des prêtres anciens, oui. De rites très anciens. On est vraiment dans une civilisation extrêmement ancienne. Là, on se sent, voilà, il y a des moments où on se sent comme l'insurrection zapatiste, il y avait beaucoup de souffrance, mais c'était fantastique d'être aux côtés de gens qui avaient décidé de se battre pour faire respecter une justice sociale et ce slogan magnifique de Zapata qui est « Terre et liberté ».
Vous êtes-vous retrouvé avec d'autres photographes sur le même terrain ? Êtes-vous nombreux à aller photographier dans le monde les peuples autochtones ?
Alors, de manière systématique, chronique et viscérale et pas le choix, je crois pas qu'on soit beaucoup. Par contre, de manière ponctuelle, il y a des confrères qui ont fait des travaux. Ça a pu faire un cycle, ça a pu être à des moments une commande ou un désir de faire. Mm-hmm. Donc, non. Puis je fréquente peu les milieux parce que par essence, je me méfie des milieux.
Des milieux de photographes?
Non, des milieux tout court, en général.
Des milieux tout court. Comment a évolué votre photographie depuis vos débuts, depuis 86? Vous vous apercevez en les regardant, en regardant des photographies anciennes de vous, que votre posture, votre position de photographe a changé, vous vous approchez peut-être plus des gens. Dans l'exposition au Musée de l'Homme, vous disiez que vous étiez en train de commencer à faire des portraits, est-ce que je me trompe ?
Non, tout à fait. Oui, c'est quelque chose, oui. Tout d'un coup, j'étais pas intéressé par les portraits beaucoup. J'aimais bien les choses en situation. Tac, j'aimais bien ce côté. Moi, mes influences, c'était, aux Arts Déco, le roi, c'était Cartier-Bresson. On avait Lee Friedlander, Robert Frank, voilà, toutes mes enfants. Kudelka, qui est pour moi un dieu, total. Donc, j'ai une profonde admiration. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est totalement en adéquation. Il est libre et ça se sent et je respecte cette liberté.
C'est un dieu que vous avez déjà rencontré?
Ah, une fois, j'ai eu la chance, on était dans le même labo. On tirait mes photos, puis il y avait Kudelka qui était là, donc j'étais très intimidé. Et puis il y a une photo qui sort, et puis il me dit ça c'est une bonne photo. Et puis après j'avais envie de lui dire, mais écoutez, vous pouvez pas voir le truc. Et puis là, il me dit, non, parce qu'il n'aime pas qu'on lui pose de questions.
Absolument.
Mais il avait délivré son message, et j'étais très fier.
Ali Rebéi est un producteur de France Inter, de grand bien vous fasse. Il est resté un moment avec cette photographie entre les mains, la vôtre, Pierre de Vallombreuse. Il ne sait pas évidemment qui en est l'auteur, où elle a été prise, mais il en parle.
Alors je suis devant une photographie en noir et blanc, une petite fille, enfin une fillette, peut-être d'une dizaine d'années, est au premier plan, elle est assise dans une voiture, côté passager. C'est peut-être une petite fille indienne, peut-être originaire du Bangladesh ou du Pakistan, difficile à savoir. C'est une petite fille qui a un très beau visage, grave. Et ce qui frappe, c'est qu'elle pleure. Ce sont des larmes qui me touchent parce que le visage est... Il n'est pas sanglotant. C'est un visage au regard très triste, la bouche entrouverte. Et je suis assez ému de voir cette petite fille. On ne sait pas pourquoi elle pleure. À l'arrière-plan, des personnages qui sont devant la voiture... Côté conducteur, on ne voit pas le personnage, il y a peut-être personne. En tout cas, elle est devant. On ne sait pas pourquoi elle pleure. Elle regarde de biais, ne regarde pas l'objectif. Elle regarde ailleurs. Elle a peut-être, je ne sais pas, elle est peut-être frappée par un deuil. Elle porte un très beau collier, qui est peut-être un collier fiché. Il n'y a pas de pathos, c'est ça qui est assez incroyable. C'est que c'est une photographie qui suscite une très forte émotion, alors qu'il n'y a pas de pathos. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment ce regard triste qui regarde au loin, cette bouche entrouverte. Elle a l'air sidérée ailleurs. Elle n'est pas avec nous, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Et ce sont des larmes qui me touchent. Je ne sais pas ce qui la touche, elle, mais elle me touche. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui la font pleurer, mais... Et surtout, c'est ce beau visage absolument magnifique. C'est une préadolescente. J'ai dit qu'elle avait 10 ans, mais elle a peut-être 12 ou 13 ans plutôt. Et oui, c'est une photo qui est assez saisissante, mystérieuse. Voilà, pourquoi est-elle à l'avant de cette voiture, à l'avant, mais tournée vers celui qui regarde la photographie. La portière est ouverte. Y a-t-il eu un accident? Est-elle, je ne sais pas. Enfin, je. En tout cas, très saisissant.
Merci beaucoup, Ali Rebehi, pour ces mots. Pierre de Vallombreuse, il pose encore beaucoup de questions, Ali.
Oui, tout à fait.
À propos de votre image.
Tout à fait. Alors là, on est dans au Jharkhand, qui est le dernier État qui a été créé en Inde, au-dessus du Bengale. Et j'étais avec ma seconde épouse, qui est indienne, et on faisait un travail sur toute cette terre qui est dévastée par l'industrie minière, les incendies, la corruption. Et c'était une zone extrêmement de grande douleur, où là justement, les hommes racines avaient quasiment disparu, puisque c'était dans le projet hommes racines, puisque les zones sont calcinées. Et donc, tout d'un coup, sur la route, alors on avait une voiture avec un chauffeur, hein, nous on était à l'arrière, et puis on voit cette fille qui était là, à sortir d'un temple, qui pleurait, puis toute seule. Alors on décide de s'arrêter, et puis ma femme lui pose des questions, elle dit « Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Monte dans la voiture, là, qu'est-ce que... » Et donc elle s'installe là, puis elle commence à nous raconter son histoire. Donc elle venait de très loin, en bus, genre un jour et demi de bus, la nuit, avec sa famille, des oncles, et pour un pèlerinage dans un temple, ce que font beaucoup les Indiens, ils font des grands pèlerinages. Ils vont prier dans des temples. Et donc là, son oncle l'avait emmené, pendant que son père, sa mère allaient dans un autre temple, son oncle l'avait emmené dans un temple. Et ils avaient commencé à prier, et à faire des rituels. Et une fois que ça s'est terminé, elle s'est levée, elle s'est aperçue que son oncle l'avait abandonnée. Là, on a affaire exactement à une technique qui existe quand des familles veulent se débarrasser d'une jeune fille. Ils l'emmènent loin, puis après ils disparaissent.
Ils la perdent.
Et elle allait devenir quoi? Esclave sexuelle dans un bordel, ou alors travailler pour des grands propriétaires, dans des propriétés, être une esclave domestique, ou être assassinée, violée. Voilà, elle était destinée à ça.
Pendant qu'elle nous racontait ça,
c'est ma femme est à côté, et elle nous racontait son truc, et elle commençait. Et donc j'ai fait une photo, deux photos, puis ma femme m'a dit « Mais arrête, tu te rends pas compte, c'est un moment. » Et je lui ai dit « Mais je suis là pour justement raconter ces histoires-là. » Et je n'ai fait que deux clichés. Et c'est une des photos qui me bouleverse le plus. Et donc ce qu'on a fait après, on lui a dit « Bah écoute, rentre dans la bagnole, enfin reste avec nous. » Et on a demandé au chauffeur, qui nous disait « Surtout ne faites pas ça, vous allez rentrer dans des problèmes, ça peut se retourner contre vous. Surtout ne faites rien du tout. » On a dit « Ma femme était très autoritaire. » Et c'était une Bengali, brahmine de Calcutta, donc très sûre de sa caste et de ses bons droits. Et là, elle est devenue la patronne et a dit « Non, fais ça. On va chercher toutes les gares routières, toutes les gares de bus. » Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on arrive dans une gare de bus. Et là, elle dit « C'est mes parents. » Ils allaient monter dans un bus.
Non.
Donc on retrouve les parents et on voit la mère qui lève la main en disant « je vais te frapper », le père qui se crispe. Et donc moi je mitraille, je fais plein de photos d'eux. Ma femme sort, elle lui dit « on est des amis du ministre de l'Intérieur du Bengale » parce que elle vient d'une famille qui était la grande famille de Calcutta qui tient le temple de Kali, où je me suis marié dans le temple de Kali.
Qui ça, votre épouse?
Mon ancienne épouse, oui.
Ah d'accord.
Et donc elle a sorti toute son autorité, elle a dit « on était au bluff » et elle leur a dit « voilà, vous prend vos papiers, on a fait des photos, des passeport, on va donner votre deux trucs, vous gardez votre fille avec vous, on ne pouvait rien faire d'autre. » Donc, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on a essayé de leur faire très peur, et c'est tout ce qu'on pouvait faire.
Après, évidemment.
On s'est fait engueuler par les membres de mon ancienne famille indienne, parce qu'ils ont dit, vous savez ce qui aurait pu vous arriver, c'est que tout d'un coup, ça se trouve contre vous, que les flics s'en mêlent en disant, ah mais vous avez kidnappé cette fille, et vous nous donnez combien pour qu'on vous libère? Parce que c'est des situations très... Il y a beaucoup de grande détresse, de grande pourriture. Oui.
Mm-hmm. Je voudrais juste qu'on ajoute un mot sur les photos qui sont soit dans les livres, soit exposées. Les légendes sont très importantes. Là, toutes les voix de France Inter, les personnages de France Inter qui ont regardé vos images, Pierre de Vallombreuse n'avait pas de légende, évidemment. Mais on a besoin des légendes pour comprendre le lieu de la photo.
Tout
et
à fait.
Le pays,
donc,
etc.
Moi, dans mes livres, il y a toujours des légendes. Le seul où je ne l'ai pas fait, c'est mon livre Souveraine, et je regrette amèrement. C'est le gros point faible de ce livre-là. Bon, il y a des textes très bien qui ont été faits par Tristan Savin qui racontent l'histoire. C'est un livre sur les sociétés où les femmes sont l'égal de l'homme. Et j'ai pas fait de légende et je m'en veux terriblement. I'm just a poor boy.
De Valombreuse, on va se quitter avec une dernière image et c'est vous qui allez nous la décrire. L'auteur va décrire sa propre photographie.
Donc là, on voit, c'est une photo verticale, on voit un jeune homme, un jeune garçon qui est assis sur ce qui reste d'un tronc d'arbre et qui domine des champs sur lesquels on voit que des arbres ont été abattus. Et puis au fond, on se dessine une vallée avec des nuages, la brume, fantastique envolée de nuages dans le ciel. Et c'est ma vallée chérie, c'est ma petite vallée du sud de l'île de Palawan. On est au sud des Philippines. Et je trouve que là, il y a tout le mystère, la beauté de ce lieu, qui est d'une beauté incroyable. En plus, c'est une petite vallée de 175 hectares, donc elle est pas trop énorme. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses que je ne veux jamais savoir. Je veux toujours garder beaucoup de mystères. J'ai pas envie de tout connaître, parce que les choses viennent à vous de manière naturelle. Oui. Et à chaque voyage, il y a quelque chose qui se révèle, et j'aime ça. Il y a suffisamment de choses pénibles dans cette petite vallée pour que les touristes ne viennent pas. Il y a beaucoup de cobras, de serpents, de scorpions.
Faites-nous on en voit peur, tous les jours. On n'ira pas.
Voilà, ce qui fait que
on n'ira pas dans votre domaine.
Ce qui fait qu'elle a suffisamment, et elle est très pentue, de la boue, des trucs. Je reviens toujours avec des écorchés, parce qu'il y a des ronces, on va à toute allure. Eux, ils savent très bien marcher très vite. Moi, je un petit peu moins. Mais ça reste la plus belle chose que je connaisse sur cette
Pierre terre. De Valombreuse, avant de vous quitter, j'aimerais savoir ce qu'il y a sur ces papiers devant vous, deux feuilles blanches, avec des mots écrits au feutre noir. Certains sont assez gros, quoi. Vous avez écrit en grand, comme si vous ne deviez absolument pas oublier de me dire certaines choses, ou surtout de nous dire certaines choses.
Oui, parce qu'il y avait des titres de livres, parce que moi, la littérature, c'est ce qui m'a le plus influencé dans la vie, et les livres. Et donc, il y avait une extraordinaire, d'abord, il y a un livre qui est extraordinaire, c'est Aden Arabi de Paul Nizan, écrit en 1931, qui était quelqu'un dans lequel, qui moi, je trouve très très proche, qui était vraiment un insurgé, qui était vraiment extraordinaire, un esprit d'une grande liberté, et qui a écrit quelque chose qui touche par rapport au voyage, par à l'exotisme. C'est une phrase qui m'a vraiment travaillé, qui me travaille toujours. Et cette phrase, donc écrite en 1931, c'était « Les autres continents fournissaient quelques-uns des mondes imaginaires que tous les hommes inventaient dans la nuit pour oublier les vérités de leur purgatoire et décorer d'illusions leur indigence et leur écrasement. » Et là, c'est effectivement le rapport à l'autre, le rapport à l'exotisme. Et on était à la veille d'un grand cataclysme qui était la Seconde Guerre mondiale. Et puis une autre petite phrase qui était, on demandait à Claude Lévi-Strauss pourquoi il était devenu anthropologue, et il disait c'est la curiosité de l'être. Et il disait voilà, pour comprendre l'être, on peut avoir la philosophie c'est rentrer dans sa propre intériorité, et puis voilà, on est dans son propre, et puis aller voir des peuples, des sociétés comme ça, archaïques, lointaines et tout, il disait la fin de la phrase c'est afin que rien de ce qui est étranger ne nous soit inconnu.
C'est très beau.
C'est très beau.
Afin que rien de ce qui est étranger ne nous soit inconnu.
Inconnu.
Très très beau, Pierre de Valombreuse. Merci beaucoup. Vous avez encore beaucoup de projets à venir.
Ah oui, j'ai commencé.
Quand on pense qu'il y a 5000 peuples, vous n'y arriverez pas.
Non, j'y arriverai pas. Mais là, je vais commencer aux États-Unis. Je vais former dans une école qui a été montée par trois femmes noires, pour une école qui est destinée aux populations qu'on dit not well attended, c'est-à-dire en gros les déclassés, les noirs, les Amérindiens et les pauvres blancs. Je vais les former à être les journalistes de leur propre quotidien, photographique. On va faire un journal, trois numéros par an. Je commence un cycle. Je fais des reportages aux États-Unis aussi sur les cultures amérindiennes. Donc je commence tout un cycle de reportages pour des magazines et aussi en tant que volontaire dans cette école pour former et rendre, et voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire en ce moment.
Bien sûr.
Et toujours, parce que la situation blanc, noir, indien aux États-Unis, elle est
dramatique.
Terrible. Voilà, le problème n'est pas résolu.
Non, bien sûr. Ça ne risque pas.
Il y avait d'ailleurs dans le livre
suite.
Extraordinaire de Colson Whitehead, qui est le Pulitzer et qui s'appelle The Underground Railway, c'est qui était sur ces réseaux qui existaient de pour faire sortir les esclaves, pour les faire monter dans le nord. Il disait que les États-Unis, c'est une terre volée qui a été travaillée par des êtres volés, c'est-à-dire les esclaves noirs. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour moi. Je commence un cycle nord-américain.
Quand? En septembre?
Ah, j'ai déjà commencé.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Pierre de Vallombrune.
Merci.
Merci. Vous pouvez retrouver l'actualité de mon invité sur son site pierredevallombreuse.com. Le livre Une vallée est publié chez VM Editions et le livre Souveraine, ces peuples où les femmes sont libres est disponible aux éditions Artaud. Dans la programmation musicale signée Thierry Dupin, vous avez bien sûr reconnu Sting, Art Mengo et le dernier titre de ce jeune chanteur canadien, Mormor. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain à 14h avec un couple de collectionneurs de photographies, bien évidemment, Florence et Damien Bachelot. Tous nos rendez-vous du samedi et du dimanche sont sur la page Regardez voir avec franceinter.fr avec les photos, les infos, les liens, les podcasts. Perrine Malinge travaille bien sûr avec nous, avec Marie-Hélène Fauquet qui réalise Regardez voir, avec Thierry Dupin qui fait la programmation musicale et avec à la technique Kevin Pelot. Juste après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Jacques Higelin, la série des médias francophones publics.
Un grand merci à vous, Brigitte Patient. Mais à 14h55, on file voir l'aérogramme de Los Angeles avec Woodkid et Louis Garrel.
De ces collines où du matin à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express. Un océan et quelques rues de Paris 18e. Tout est si loin, je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Sunset boulevard, des Indiens nous vendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort. L'aérogramme arrivait par express.